pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est une véritable bombe à retardement. Chaque année, 15 millions d'hectares de forêt disparaissent. C'est l'équivalent de la surface de la Belgique. Fermez les yeux 2 secondes. Imaginez un peu, cela représente 2400 arbres coupés chaque minute. C'est triste, me direz-vous, parce que c'est beau un arbre. Oui, mais c'est pire que cela, car les forêts nous rendent des services immenses que nous allons vous dévoiler dans un instant. Heureusement, la mobilisation s'organise. Vous pouvez en faire partie, car parmi tous les projets que nous allons vous présenter, il y aura certainement un projet qui vous donnera envie d'agir ou tout du moins qui vous fera réfléchir. Allez, forêt, mode d'emploi, c'est parti.
C'est pas du vent sur RFI.
Ils ont des troncs à la mesure des siècles qu'ils ont traversés. Quand je pense qu'il y a 700 ans, ce géant était une graine minuscule. Les arbres incarnent le temps. Les forces qui agissent à l'intérieur de tels arbres sont considérables. Les racines pompent l'eau. Des vaisseaux l'acheminent dans le tronc, puis dans les branches, à 70 mètres au-dessus du sol. Les feuilles la transforment en sève, qui repart vers les branches et les racines. L'arbre est un être de flux. Quand il ne peut plus soulever l'eau vers sa cime, il s'arrête de pousser. C'est sa seule limite vers les hauteurs.
Un extrait du magnifique film « Il était une forêt » de Luc Jacquet. Bonjour Jonathan Guyot.
Bonjour.
Vous êtes un ingénieur forestier, vous avez travaillé en Amérique du Sud, en Afrique centrale. Aujourd'hui, vous êtes responsable de la solidarité climatique au GERES, qui est le groupe énergie renouvelable, environnement et solidarité, que l'on aime bien. Dans C'est pas du vent, vous pouvez nous présenter en quelques mots le GERES ?
Alors, GERES est une ONG de développement international qui travaille depuis plus de 40 ans sur de nombreux territoires, dont l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est et aussi en Asie centrale et aussi, vu qu'on est implanté, notre siège est à Aubagne, en région PACA et au Maroc.
Alors nous irons au Mali tout à l'heure avec le GERES, mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est surtout parce que vous avez cofondé l'association All for Trees, alors All avec le chiffre 4 et Trees, arbre en anglais au pluriel. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors c'est un projet qu'on a monté avec d'anciens collègues, des amis. L'idée c'était de créer un peu une communauté d'acteurs qui ont envie de promouvoir, soutenir des initiatives de reforestation parce qu'il en existe énormément dans le monde. L'idée c'était d'aider ces petits porteurs de projets qui peuvent se retrouver au fin fond de la Tanzanie, au fin fond de l'Amazonie, à communiquer, à se faire connaître. Donc on a vraiment cette idée de promotion, de sensibilisation aussi au grand public de l'importance de l'arbre et de la forêt. Et à terme, l'idée, ce serait quand même de fédérer l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils puissent travailler un peu plus ensemble, peut-être partager des outils, partager des méthodes, partager des moyens de communication pour qu'ils puissent vraiment agir, eux, sur le terrain et nous les aider à se faire connaître.
C'est comme dans la forêt, on est plus fort à plusieurs.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est l'étendue des forêts dans le monde aujourd'hui ?
Les forêts recouvrent à peu près 30% des terres. 50% se trouvent en forêt tropicale. On a quand même des forêts boréales qui ont une grande majorité de surface. On oublie souvent de parler de la Sibérie ou les forêts canadiennes. Et ensuite, à moindre échelle finalement, les forêts tempérées qu'on connaît chez nous, qui représentent à peu près 16% de la surface. Donc voilà, 50% des forêts sont tropicales, donc dans les pays d'Amazonie, Afrique centrale et Asie du Sud-Est.
Et malheureusement, c'est surtout là qu'elles sont menacées.
Exactement, en fait, la déforestation impacte plus fortement les forêts tropicales. On estime qu'on a déjà perdu aujourd'hui quasiment 50% des forêts tropicales. Et c'est rare aujourd'hui que dans nos pays, comme en Europe, on parle de déforestation. On est plutôt dans une tendance où on récupère au fur et à mesure du temps des surfaces forestières. Donc cette problématique de déforestation est quand même très emblématique des régions tropicales.
Surtout Brésil, Indonésie.
Alors oui, le pays qui est en tête, alors c'est un triste classement j'ai envie de dire, qui est en tête c'est le Brésil. Mais largement.
Mais pourtant, ça allait mieux à un moment.
Alors effectivement, il y avait des politiques qui permettaient à un moment de réduire cette déforestation. Et là, dernièrement, en 2015, ces politiques sont un peu tombées à l'eau. Et l'augmentation de la déforestation est repassée de 30% en un an. Et le WWF a même sorti des chiffres qui disaient que d'ici 2030, le Brésil pourrait perdre plus de 50% de sa surface forestière. Donc c'est important. Et après, d'autres pays qui sont fortement impactés, donc l'Indonésie aussi. Et par exemple, en Malaisie, on considère que, en Indonésie-Malaisie, on considère que 90% de la déforestation est liée, par exemple, à la production de l'huile de palme.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Les principales causes de cette déforestation, c'est quoi ? Donc l'huile de palme, vous l'avez mentionné, c'est-à-dire qu'on coupe la forêt pour faire des plantations.
Alors, la principale cause, finalement, c'est l'extension agricole, alors qui est nécessaire, hein, parfois, il ne faut pas l'oublier, il y a des populations à nourrir, mais qui peut être très extensive. Donc, effectivement, dans cette production agricole, il va y avoir par exemple l'huile de palme, la production de soja. Alors, l'élevage bovin aussi est un grand vecteur de déforestation, puisqu'en fait, il faut, alors surtout en milieu tropical, il faut d'énormes superficies de pâturage, mais aussi il faut alimenter le bovin avec du soja. Donc, il faut imaginer que pour une tête de bovin, il va falloir couper plusieurs hectares de forêt. Et donc ça, c'est vraiment, par exemple, un type d'agriculture qui est vraiment néfaste pour la forêt, quoi.
Puis il y a l'exploitation illégale du bois.
Alors oui, on parle rarement de déforestation en tant que telle, mais ça participe finalement à appauvrir les forêts. Et quand on appauvrit les forêts, ils ont moins de ressources. Et finalement, s'ils ont moins de ressources, vaut mieux les convertir en d'autres surfaces agricoles, finalement, quelque part. Donc effectivement, le trafic de bois peut vraiment impacter la déforestation. Alors les pays les plus touchés peuvent être le Brésil, encore une fois, mais aussi l'Afrique centrale, pour le coup, même s'ils mettent de plus en plus en place de plans de gestion durable de leurs forêts.
Et puis il y a l'exploitation minière.
Ah, effectivement, c'est à moindre échelle, mais ça a quand même un impact. On a vu, par exemple, un projet en Guyane, qui est en cours de discussion aujourd'hui.
Oui, toujours.
Toujours. Et aussi au Brésil. Alors là, apparemment, très récemment, ce projet a été arrêté, mais il y avait des projets d'exploitation minière. Et on le voit aussi en Afrique centrale, où il y a des concessions d'exploitation minière qui, à terme, finiront par déforester d'immenses superficies de forêt tropicale.
Et enfin, l'extension urbaine. Nos villes grossissent et mordent sur la forêt.
Alors, c'est une cause de déforestation. Par contre, c'est vrai qu'en termes de pourcentage, on est plutôt à 3%, donc c'est pas énorme, mais c'est vrai que dans les pays en voie de développement qui peuvent être assez proches parfois des forêts, et on voit vraiment ce grignotage sur les forêts. Et souvent, l'impact, c'est pas vraiment l'extension urbaine, c'est l'extension démographique, où on le voit par exemple à Kinshasa, où c'est difficile aujourd'hui d'accéder à une forêt à moins de 200 km. Donc c'est l'extension urbaine, mais aussi démographique, fait une pression sur la forêt.
Mais en vous écoutant, on pourrait se dire finalement, c'est l'être humain qui s'étend, ses activités, etc. Ce n'est pas si grave, sauf qu'en fait, déforester, c'est grave. Pourquoi c'est grave, docteur docteur Forêt?
Pour plein de raisons qu'on n'imagine pas forcément quand on vit en ville, par exemple. Peut-être une des premières raisons, ça serait que la forêt participe quelque part à la lutte contre le changement climatique. Et la déforestation aujourd'hui est responsable de plus de 12% des émissions de CO2. Le Brésil, par exemple, avec toute la déforestation qu'il y a dans ce pays, 40% de son bilan carbone, de toutes ces émissions, est dû à cause de la déforestation. Donc ça a un impact énorme sur l'ensemble de notre planète, au final, puisque ça va accélérer les changements climatiques, alors que la forêt, quelque part, peut contribuer à la lutte. Là, on verra tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives, par exemple de reforestation, restauration, vont contribuer à diminuer l'impact des
changements climatiques. Oui, parce qu'un arbre stocke le carbone.
Stocke le carbone, voilà. Donc ça, c'est un impact fort. Et ensuite, on peut le voir juste en termes de CO2, mais aussi l'arbre apporte beaucoup plus d'externalités. Alors, le plus simple à comprendre quand on parle de forêt, c'est la biodiversité. Faut savoir que 50% des produits pharmaceutiques aujourd'hui viennent de molécules issus des forêts.
C'est notre pharmacie.
C'est notre pharmacie, voilà. C'est notre pharmacopée. Et que pas forcément comme les populations locales plus utilisées en manière traditionnelle. Pour nous aussi, c'est notre pharmacie. Il y a aussi la préservation de l'eau. Alors, le bassin amazonien est là un des meilleurs exemples. L'érosion des sols, toutes ces choses qui sont nécessaires. On voit même au Brésil, dès que maintenant il y a des grosses pluies, ce sont des pluies diluviennes, torrentielles, qui finissent par faire des coulées de boue. Donc la forêt apporte énormément à l'homme, et c'est pour ça que c'est important, ce qu'on appelle les services écosystémiques, de la préserver.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreux moyens d'enrayer cette catastrophe et que de plus en plus de personnes se mobilisent sur tous les continents, et nous allons vous le prouver dans cette émission.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Pendant longtemps, on a essayé de protéger la forêt pour la forêt. Finalement, on se rend compte qu'il faut protéger la forêt pour les hommes, mais avec les hommes, qu'ils soient vraiment acteurs de la préservation, de la restauration et de la valorisation de ces espaces forestiers.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous parlons de l'importance de protéger les arbres en général et les écosystèmes que sont les forêts aujourd'hui avec Jonathan Guyot, cofondateur de All for Trees. De nombreuses personnes, on vous le disait, se battent au quotidien pour replanter des arbres dans toutes les parties du monde. Par exemple au Mali où vous vous trouvez, Renaud David, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du GERES au Mali, donc le groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes en ligne depuis Ségou, dans le sud du pays, car c'est là que vous animez un des projets qui vise à restaurer les sols. Des sols qui ont été très malmenés dans cette région. Pourquoi ?
Alors les sols sont malmenés pour deux raisons principales. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des phénomènes de dérèglement climatique. Mais la deuxième cause importante, c'est aussi l'impact de l'agriculture, d'une certaine intensification agricole, notamment portée par certaines monocultures, notamment au sud du Mali, qui finalement génèrent du défrichage, génèrent l'utilisation en fait d'engrais minéraux en quantité relativement importante, et empêche en fait la vie du sol d'une façon naturelle.
Oui, dans le sud du Mali, c'est notamment la monoculture du coton. Alors, vous avez planté 180 000 arbres en 2017 avec les paysans de cette région, mais vous ne plantez pas n'importe quel arbre, évidemment. Alors, comment choisissez-vous ces arbres ?
Alors, en fait, on a deux stratégies. On a des stratégies en fait, de plantation d'arbres dites à utilité multiple, pour avoir un effet donc, d'agroforesterie, de restauration du milieu, mais aussi de génération de revenus pour les petits producteurs locaux. Je vais prendre comme exemple le baobab, par exemple, qui sert à fabriquer des jus de baobab, mais aussi dont l'huile des graines de baobab est fortement valorisée. Le moringa, qui apporte des éléments nutritifs extrêmement importants. Donc en fait, on a des espèces qui vont apporter, on va dire, des amendements via la chute des feuilles, qui vont restaurer les sols, mais aussi des arbres qui vont avoir un effet économique en fait sur les régions et sur les territoires d'intervention.
Oui, parce que les personnes peuvent non seulement se nourrir, donc ça a un impact sur la sécurité alimentaire, mais aussi vendre évidemment les fruits qu'elles récupèrent ou tous les produits transformés à partir des fruits de ces arbres. Et dernière question, parce que la ligne n'est pas très très bonne, comment faites-vous pour limiter l'impact du bois de chauffe qui reste la principale source d'énergie pour les populations locales ?
Alors effectivement, 80% de la demande en énergie en Afrique, c'est le bois et le charbon. Donc on a une stratégie en fait en amont. On accompagne la structuration des coupeurs de bois, des charbonniers, des ramasseurs pour les structurer et les sensibiliser à la gestion de la ressource ligneuse. Cette ressource ligneuse devient rare et nous amenons donc ces associations structurées à en fait replanter les arbres qui sont coupés ou à gérer en fait durablement la ressource. En aval, le GERES a des actions depuis de nombreuses années sur la cuisson améliorée, donc avec des appareillages en fait, qui permettent de diminuer la consommation de bois pour faire la cuisine. Donc c'est une stratégie, on va dire, à deux niveaux. En amont, gérer la ressource et en aval, diminuer la consommation de bois pour la cuisson quotidienne.
Merci Renaud David pour toutes ces explications, malgré une ligne téléphonique où il fallait un peu tendre l'oreille. Jonathan Guyot, on comprend bien à travers ce témoignage de Renaud David le rôle essentiel de l'arbre, même dans une zone aussi aride que le Sahel.
Effectivement, est peu importante finalement dans ces forêts-là. Par contre, la demande, la consommation est, elle, augmente chaque jour. Et c'est vrai que l'approche du GERES en mode filière, la réduction de cette consommation de bois est intéressante, parce qu'à la fois, il travaille justement à la réduction de la dégradation des forêts qui pourraient rester, l'accompagnement de la gestion, et derrière, la restauration. Alors là, plutôt sous des modèles agroforestiers pour permettre aux populations d'avoir accès à une ressource quasiment sous la main, et donc d'éviter de toucher aux forêts qui devraient être plutôt conservées ou gérées durablement.
Alors il y a quand même une difficulté à expliquer aux populations qu'un arbre planté rapporte plus qu'un arbre coupé.
Alors, je ne suis pas trop de cet avis. Alors, peut-être ici en France.
Tant mieux.
Ouais, moi, je ne suis pas trop de cet avis. J'ai eu donc l'occasion de développer des projets d'agroforesterie au Mexique. Et les populations ont vraiment compris que l'arbre leur rapportait. Alors, pas directement. C'est-à-dire que souvent, quand ils plantent un arbre, ils le plantent pour leurs enfants, voire leurs petits-fils. Mais ils ont une vraie valeur, ils y attachent une vraie valeur déjà sentimentale. Alors, ça, c'est assez particulier. Mais aussi une vraie valeur économique. Là où où ils vont pas forcément penser à l'arbre, c'est souvent quand il va y avoir des subventions pour inciter à la plantation, bah, par exemple, de coton en mode intensif, mais aussi de maïs en mode intensif avec des intrants chimiques. Forcément, bah, là, l'appât du gain économique direct peut les amener à faire de la déforestation et planter. On voyait ça principalement au Mexique, par exemple. Mais ils ont une vraie valeur, ils y trouvent une vraie valeur économique à l'arbre. Donc, l'importance, ils la connaissent aussi bien en termes de pharmacopée, de produits non ligneux forestiers, mais donc tout ce qui est fruits, tout ça, écorce, mais non, ils y attachent.
Dans une zone comme le Sahel, où la seule source d'énergie, comme le disait Renaud David, c'est le bois, c'est vrai que ben, on a tendance à couper. Et là, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, il faut aller de plus en plus loin. Et puis du coup, vous le disiez tout à l'heure, l'arbre garantit aussi la préservation des sols, l'eau, etc. Donc c'est une dégradation lente, c'est un cercle vicieux, en fait.
Alors, lente, oui. Finalement, en plus, comme l'arbre participe aussi au maintien d'un climat local, on va dire, augmenter un petit peu l'humidité, garder un peu de fraîcheur, c'est vrai que peu à peu, ils détériorent leur propre territoire en coupant de plus en plus ces arbres. Donc c'est pour ça que c'est important de les accompagner d'abord, effectivement, à la réduction de leur consommation de bois, puisque finalement, si on replantait des arbres derrière, eh ben, ils seraient recoupés automatiquement pour continuer à se chauffer, à chauffer plutôt la nourriture.
Et on reçoit plein de présentations dans cette émission de projets de plantation d'arbres, etc. Mais ce qui est important, c'est de ne pas planter n'importe quoi. Hein. On l'entendait aussi avec le témoignage de Renaud David.
Alors effectivement, on le verra tout à l'heure avec les différents acteurs qui vont présenter leur projet. Là-bas, c'est de comprendre les besoins locaux. Les populations ont des besoins en bois de chauffe, en bois de construction, en arbres qui vont pouvoir les alimenter ou alimenter leur bétail. Donc il faut déjà comprendre ce qu'ils ont besoin, voir aussi les interactions. Et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en savoir un peu plus avec Jean-Marie Déhou tout à l'heure. Les arbres ont une vraie interaction parfois entre eux. Donc il y a des associations d'arbres qui sont très importantes en agroforesterie, comme le disait tout à l'heure Renaud David, certains arbres permettent de fixer de l'azote dans les sols qui vont permettre de fertiliser les sols mais qui vont aussi bénéficier à d'autres arbres. Donc il y a tout ça à étudier et on plante de manière générale 5 à 15 essences différentes, que ce soit en agroforesterie ou en reforestation, pour apporter le maximum de bénéfices sur ces surfaces, ces nouvelles surfaces forestières ou agroforestières.
Restez avec nous dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous parlerons reforestation et reboisement. Tiens, c'est quoi la différence? Allez, nous vous expliquerons tout cela et nous irons en Colombie, en Guinée-Conakry et en France. À tout de suite.